Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro 636 du Coq à l'âne, en direct aujourd'hui de Briançon, du Relais d'Alsace, chez Jean-Michel Tirol, avec mes coqualiens favoris. Nous avons Philippe Stockley qui est là.
Bonjour.
Nous avons Jean-Paul Grolier qui est là.
Bonjour.
Et nous avons Rémi Chouissard qui est là.
Bonjour.
On est ensemble avec notre invité Romain Grisca. Salut Romain.
Bonjour à tous.
Alors, comme d'habitude, hein, quand on est à Briançon, la parole est au procureur.
Eh oui, bon Romain, deuxième passage au Coq à l'âne version Vauban, voilà qui commence à ressembler à de la notoriété. Il y a un an, nous recevions un jeune élu local qui savait déjà qu'il allait se présenter aux élections municipales de Briançon, mais qui nous disait qu'il y réfléchissait. En fait, si on vous répond pas non à la question « serez-vous candidat blablabla », c'est que la réponse est oui. C'est comme ça en politique, tu bouillonnes à l'intérieur et tu fais le blasé à l'extérieur. En même temps, j'imagine, Romain, que pour faire ta liste, il te faut trouver une trentaine d'hommes et de femmes, donc une tâche plus ou moins ardue, et forcément, pendant ce temps, là, tu peux dire que tu réfléchis. Alors, pendant que ce temps, tu dis que tu réfléchis, mais en fait, tu cherches du monde. Ah, faire une liste pour les élections, voilà bien un exercice délicat. On sait bien que quand on fait une liste, il faut trouver aussi des hommes et des femmes qui vont être placés à la fin de la liste. En termes clairs, il faut trouver des gens qui savent d'entrée, qui ne seront jamais élus. Il reste donc au candidat que tu es à estimer combien de suffrages tu vas récolter pour déterminer qui de ta liste sera élu ou qui ne le sera pas. Imaginez le cas de conscience. Enfin, j'espère. Et puis, et comme une élection n'est jamais une science exacte, ce que je regrette parfois quand j'aurais envie que certains candidats soient franchement battus, ce qui peut arriver, c'est que celui à qui tu avais promis la victoire et accessoirement une bonne place au conseil municipal avec indemnité à la Henvec, eh bien celui-là reste sur le carreau. En général, tu le retrouves quelques années plus tard contre toi et sur une liste concurrente, n'est-ce pas Romain? Ou alors inversement, celui que tu avais choisi par dépit pour prendre une place reculée et qui se retrouve élu, et alors là tu te demandes bien ce que tu vas en faire. Les anciens combattants ou l'amicale du personnel municipal, va savoir. Je te souhaite donc bon courage, Romain, pour cet exercice. Mais bon, c'est pas de cela dont je voulais parler aujourd'hui. Je voulais surtout évoquer la dépréciation du langage dans le milieu politique. En effet, que ne fut pas ma surprise quand j'ai lu dans le DL que tu traitais certains des conseillers municipaux de Gérard Fromm de feignants. Eh oui, j'ai bien dit feignant. Bon, feignant, c'est un mot courant quand on discute au coin du bar du commerce, quand on évoque certaines catégories de salariés, ou le gendre récemment uni à sa chère fille. Mais quand même, Romain, en politique, feignant, j'ai bien compris que tu avais décidé que le ton de l'interview au DL serait plutôt sur le mode agressif. Fini les histoires d'alliance, fini les politesses du même bord. Gérard Fromm a une peu courtoise salve sur son âge, sa fatigue et son mandat de trop. Et Arnaud Murgia, lui, a une rafale sur son appartenance à la droite extrême. Entre parenthèses, il est toujours intéressant d'inverser le nom et l'adjectif pour apparemment atténuer le propos. Mais finalement, faire comprendre l'inverse et sur son vocabulaire, je cite aussi, peu humaniste. Donc en résumé, fini de rire, appelons un chat et un feignant, un feignant. Il reste à déterminer le sens du mot feignant. Feignant, ça vient du verbe feindre. Le dictionnaire parle de quelqu'un qui fait semblant de mettre du cœur à l'ouvrage. Mais tu aurais pu aussi dire fainéant, mot formé à partir de la contraction de fait et de néant, donc ne fait rien.
Eh oui.
Faire semblant en politique, ça doit arriver souvent, j'imagine. Donc je pense que tu aurais plutôt employé le mot fainéant. C'est d'ailleurs le mot qu'avait utilisé Emmanuel Macron dans un de ses discours un peu maladroit. Mmh. Et c'est d'ailleurs aussi le mot que vient d'employer Donald Trump au sujet de ses adversaires démotraques, slacker en anglais. Il les a traités de fainéants. Mmh. Au fait, à fainéant, tu avais ajouté incompétent. Comme ça, c'est fait, c'est bouclé, rhabillé pour l'hiver.
Et dans incompétent, il y a pétant aussi. Hein. On est d'accord.
Tu dois avoir des promenades dans Briançon qui doivent être intéressantes. Bon, c'est vrai que tu as eu des prédécesseurs célèbres sur le registre de la dérive du vocabulaire politique, avec en premier le fameux et inoubliable « casse-toi, pauvre con », prononcé par Nicolas Sarkozy. Merci, monsieur Sarkozy, de me laisser dire des gros mots à l'antenne. Je cite, hein, j'ai bien dit, je cite. Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, lors de sa visite officielle au Salon de l'agriculture 2008. Bon, plus tard, Nicolas a avoué, sûrement forcé, qu'en se situant au niveau de son interlocuteur, il avait abaissé la fonction présidentielle. plus loin dans l'histoire, mais je l'adore, tout aussi excellent, Georges Clemenceau, en présence de son premier, de le, du premier ministre britannique du moment, disait « Ah, si je pouvais pisser autant qu'il parle !» Je comprends bien son problème. Et on terminera avec l'extraordinaire Jacques Chirac dans un bain de foule. « Connard !» lui avait lancé un impoli.
Enchanté.
Et c'est sans se départir de
moi,
son
c'est
sourire
Chirac, c'est ça.
Et de son sourire sans sang-froid. Le président lui avait répondu du tac au tac « Enchanté, moi, c'est Chirac !» Parce que finalement, en politique, la grande classe, la vraie grande place, c'est la répartie.
Ouais.
Donc Romain, un conseil d'observateur, fais attention à ton vocabulaire, ou alors s'il est choisi, assumé, travaille ta répartie.
Très bien. Joli papier de lancement pour Romain.
Quelle entrée en matière.
Voilà, Romain qui a du répondant, hein, de toute façon, je pense, notamment depuis hier, où on t'a vu monter au créneau. Sur un sujet dont Philippe voulait aussi parler. Alors Philippe, je te laisse encore la parole.
Oui, alors faut-il démolir ou pas la caserne? Bon, après, moi, sur le sujet pris comme ça, à brûle pourpoint, je dirais, s'il vous plaît, démolissez. Enfin bon, c'est pas le problème. Il se trouve que...
Ah, pas de copain.
Ben voilà, tu vois, il fallait pas venir. Fallait pas l'inviter.
C'est sur mes vieilles haines que j'entretiens.
Ah, ton côté moderniste.
Voilà. Donc, en fait, il y a eu un vote à la communauté de communes de Briançon il y a 3-4 jours, où, en fait, le vote s'est porté vers la démolition d'un bâtiment qui se trouve à quelques mètres d'ici. En fait, il y a tout un quartier moderne qui s'est installé au milieu de ce qui était avant le quartier militaire, hein, puisque les militaires sont partis il y a quelques années. Et toutes les villes qui ont vu partir leurs casernes ont touché des subventions, etc., des financements pour faire autre chose. Bon, là, autre chose, la municipalité Gérard Fromm a laissé construire un quartier résidentiel, un cinéma et une médiathèque qui est en train de se terminer. Mais il reste au milieu de ces bâtiments modernes les anciens bâtiments anciens.
Les anciens bâtiments anciens.
Ouais, c'était militaire que je voulais mettre à la place d'ancien. Tu vas me couper.
Non, je laisse tout, moi.
Et là est le point de la discorde. Alors, Gérard Fromm a dit qu'il met l'histoire de l'appartenance au patrimoine, c'est quelque chose qu'il avait du mal quand même. Est-ce vraiment un patrimoine, etc. Et notre ami, donc à notre table aujourd'hui,
Romain, qui lui est à fond sur le patrimoine. Alors vas-y, défends ton dossier.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plusieurs réunions de pré-projet pour la construction. En fait, c'est la construction du pôle culturel, c'est-à-dire on va regrouper dans un seul et même endroit le nouveau théâtre du Briançonnais, le conservatoire de musique et l'atelier des beaux-arts. Voilà, ces trois équipements sont aujourd'hui éclatés dans Briançon. Il faut qu'on les remette aux normes. Ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Donc on s'est dit pourquoi pas faire dans un seul et même bâtiment. Tout ça, c'est acté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Puis on a eu plusieurs projets qui partaient du bâtiment Colo. Puis ensuite on a traversé la rue pour aller jusqu'au bâtiment Berwick, parce que Colo, on l'a appris dans le débat qu'un groupe hôtelier était intéressé. C'est toujours bien d'apprendre les choses quand on pose des questions. Ça aussi, c'est quelque chose que je reproche énormément au maire président Fromm, c'est qu'on ne sait jamais rien et qu'on apprend au gré des questions ou alors dans la presse alors qu'on est élu. Je pense qu'il devrait relire juste le code général des collectivités territoriales, où lorsque les conseillers doivent prendre une décision sur une délibération, ils doivent avoir tout les tenants et les aboutissants. Parce que si jamais on défère un certain nombre de délibérations au tribunal administratif, on va dire que la bonne moitié pourrait être annulée parce qu'il y a un défaut d'information des conseillers. Bref, ça c'était pour la petite
vice de forme, comme on dit.
C'est plus qu'un vice de forme, c'est même un vice de fond, parce que nous, on nous demande de prendre une décision sur un dossier qu'on ne maîtrise pas parce qu'il n'y a pas des informations. Il y a une rétention d'informations qui est faite, soit c'est récurrent depuis, on va dire, son arrivée au pouvoir depuis 2009. C'était le cas sur la chaufferie bois, rappelez-vous. On n'avait aucune information alors que la DSP avait été soumise au vote. Et ensuite, aucune information sur les puissances souscrites, les bâtiments qui allaient se raccorder, etc. etc. Donc, pour revenir sur le pôle culturel,
le dossier,
il fait consensus, il n'y a aucun problème, mais ce qui ne fait pas consensus, et je dois rappeler que je ne suis pas moi tout seul, Romain Guesca, à avoir voté contre, il y a 11 personnes qui ont voté contre à la communauté de communes du Briançonnais, et un total de 6 communes, Montgenèvre, Villard-d'Arène, La Salle-les-Alpes, Monétier, puis Saint-Pierre, Servières. Donc je ne suis pas que moi, Romain Guesca, contre la destruction de cette caserne et ce coût exorbitant de 25,5 millions d'euros.
Parce que oh, l'écart n'est pas énorme quand même.
Bah, l'écart, ça fait 10%. Alors moi, je ne sais pas non plus sur quelle planète vit Gérard Franck. Peut-être que tu vis sur la même planète.
Mais non, mais,
mais pardonne-moi, mais 2
si
millions
si c'était la
d'euros,
moitié du prix, non, on pourrait effectivement.
Mais ça fait quand même 10% du prix. Donc 10% du prix, c'est énorme. Et en plus, dans ça, dans son argumentaire, enfin, on voit bien qu'il court après les arguments, là, il ne sait plus trop ce qu'il raconte. L'amiante. De toute façon, c'est oui. un problème que l'on détruise le bâtiment ou qu'on le restructure. Il faudra bien confiner l'amiante, il faudra le traiter. Mmh. Bon, donc me ressortir l'argument de l'amiante, c'est juste pour faire peur aux gens, on a vraiment peur sur la ville. Et ensuite, dans le propos de Philippe, oui, on a construit un nouveau quartier résidentiel, mais le plan, là aussi, défaut d'information, le plan qui nous a été fourni dès le début, sur lequel nous avons voté, une fois, deux fois, trois fois, le changement du PLU, le plan d'ensemble, les voiries, les réseaux, tout, les casernes, elles y figurent. Les trois casernes, elles y figurent. Et aujourd'hui, on vient nous apprendre, alors ça a changé, hein, entre le mois de juin et le mois d'octobre, on change, badaboum, on détruit la caserne intégralement. Mmh. Alors là, maintenant, à coup de communiqué, le directeur de cabinet de Gérard Fromm et lui-même disent « Oh mais non, mais on peut conserver un mur, deux murs, trois murs. Enfin, » vous allez voir que bientôt, ils vont nous conserver les toits. Mais ce qui est hallucinant, c'est que sur les plans que j'ai publiés sur ma page Facebook, les plans des volumes, je ne vois pas comment on va pouvoir conserver une façade, deux façades ou trois façades, puisque le bâtiment est plus haut, plus large et plus long que la caserne actuelle. Alors, moi, je veux bien qu'on nous raconte des choses, mais il ne faut pas non plus mentir aux Briançonnais. On ne leur a jamais dit que la caserne allait être détruite.
Alors,
jamais.
Moi, je vais me faire l'avocat du diable, hein, évidemment. On sentait qu'il y avait un certain consensus depuis quelques mois entre toi et Gérard. Hein, ça se passait plutôt bien. Et puis là, élection arrivant, on sent que... moi, je me suis dit, bah, Romain, il n'a pas trouvé d'accord avec Gérard. Du coup, bah, il va monter au créneau. Premier dossier qui va arriver, bim, je rentre dedans.
Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas le premier dossier où je lui rentre dedans, mais moi je l'ai toujours dit, c'est une opposition constructive et pragmatique. Lorsqu'un dossier va dans le bon sens, je le dis, je l'appuie. Et lorsqu'il va dans le mauvais sens, je le dénonce. Et c'est mon devoir de le dénoncer. Aujourd'hui, je peux vous dire que sur le cœur de ville, et vous pouvez réécouter tous les enregistrements des conseils municipaux, ils sont sur YouTube d'ailleurs, on est un peu moderne à Briançon, vous allez voir, dans le projet du cœur de ville, j'ai toujours contesté la proximité entre les bâtiments, la densité de ce quartier. Je n'ai jamais varié d'un iota. Et ça a toujours été des votes contre sur le PLU, contre le plan d'ensemble. On avait voté une seule chose, c'est les voiries. Mais le plan d'ensemble des programmes, vous pouvez aller vérifier, c'est un vote contre. Et on l'a toujours répété. Et aujourd'hui, Gérard Fromm nous dit, enfin, il a osé dire en conseil communautaire, mais je vous jure, ça valait vraiment son pesant d'or. Oui, mais vous comprenez, peut-être qu'en reconstruisant le bâtiment, en faisant, vous pouvez voir les plans sur Facebook, en faisant des escaliers devant, on pourrait aérer les bâtiments qui sont derrière parce qu'il manque de soleil. De qui se moque-t-on ? Qui était là en premier ? La caserne de 1880 ou les bâtiments qu'on vient de construire avec Farage ?
Mais quelle est la vraie motivation, tu penses, de ce changement ?
Je voudrais pas penser que tout est prévu depuis le début.
Ah.
J'ai peur que ce soit prévu depuis le début, en fait. Et qu'on nous ait mené en bateau, comme ça, 5 mois des élections, pour nous dire « Oh, bon, on détruit ». Et puis moi, je me pose une deuxième question. Il y a deux casernes à Berwick. Puisque Colo, on a appris qu'il y a un projet hôtelier. Mais la deuxième caserne de Berwick, c'est
Colo,
la première.
Colo est très en retrait, de toute façon. Elle peut, il n'y a pas d'immeuble derrière.
Voilà, il n'y a pas d'immeuble derrière. Là, on peut envisager effectivement une extension, une ouverture du toit, comme ça a été présenté. Complètement. Mais sur Berwick, si Gérard Fromm me dit que le premier bâtiment, c'est une catastrophe environnementale, alors moi, je ne comprends pas non plus l'argument là. Parce qu'on va détruire un bâtiment pour en reconstruire un. Pardonnez-moi, mais en termes de bilan carbone, je pense que la restructuration, c'est un petit peu moins coûteux en bilan carbone qu'une destruction et une reconstruction derrière. Je termine. Oui. Le deuxième bâtiment de Berwick.
Il est long. Hein.
Ouais, vous avez vu. Mais pour une fois, je peux parler au Coq-à-l'âne.
Oh.
D'habitude, c'est les chroniqueurs qui parlent et moi, j'écoute. Bref, je termine juste ça. Ouais. Le deuxième bâtiment de Berwick. Mais j'ai très peur pour lui. Parce que si le premier, on nous dit techniquement c'est infaisable, il y a 3,50 m de plafond, c'est une horreur à restructurer, bah, la preuve que non, parce que les plans c'est 2 millions d'euros de moins. Et on a le chiffrage, 23,5 contre 25,5. Mais si on suit Gérard Fromm dans sa mégalomanie de tout détruire, où est le plan sur le second bâtiment ? Si le premier, on rase tout, qu'est-ce qu'on en fait du second ?
Bonne question. La réponse, eh bien, on la posera à Gérard Fromm, hein, bien
oui,
sûr.
Oui, qu'on va recevoir prochainement,
dans 15 jours.
D'ailleurs, dans 15 jours.
Voilà, donc on pourra discuter. Un avis, Jean-Paul, vite fait.
Ben moi, je suis un peu paumé. J'ai l'impression qu'ils prennent le train en marche en disant on garde, puis on garde plus. Enfin, ça me surprend un petit peu. Voilà.
Ouais.
Ouais, bah, c'est une surprise.
Je trouve ça très bizarre parce que c'est un
plan d'ensemble. Mais qu'en pensent les Briançonnais? C'est ça départ, la question.
Bah, Romain, juste quand il dit au départ on te présente un plan d'ensemble, tu adhères ou tu adhères pas.
Ouais.
Et qu'ils aient collé effectivement des bâtiments nouveaux à l'ancien, ça a surpris un peu tout le monde qui n'avait pas vu le plan d'ensemble.
Oui, enfin, le moderne qui vient se coller à l'ancien, il y a des exemples partout.
Oui, enfin, pas.
Non, c'est juste
partout
pour, c'est
souvenez-vous,
juste quand
souvenez-vous, ne serait-ce que de la pyramide du Louvre, oui, qui avait fait débat pendant des années.
On peut en parler, mais personne n'y vit. Oui, quand tu vis collé à un autre bâtiment, que tu achètes du neuf collé à un bâtiment, surtout dans le Briançonnais, on a du soleil et on a de la vue.
Et puis Rémi, juste une chose, tu as parfaitement raison dans ton propos. Aujourd'hui, on va l'expliquer à des gens qui ont investi jusqu'à 200 000 euros pour acheter leur appartement à 3,50 m de l'ancien bâtiment, que l'on va le démolir pour en reconstruire un. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont dépensé de l'argent, et vu le prix de l'immobilier à Briançon, merci, pour avoir une destruction à 3,50 m de leur bâtiment et une reconstruction, c'est-à-dire 3 ou 4 ans de travaux. Bon courage pour les investisseurs. Hein. En tout cas, je pense que c'est vraiment se ficher de leur investissement et du projet qu'ils ont porté au début.
On marque une pause, on revient dans un instant, toujours en direct de chez Jean-Michel Tirole. Nous sommes relais d'Alsace. Autour de la table, il y a Philippe Stockli, Jean-Paul Grolli et Rémi Chouissa. Et donc notre invité, Romain Grisca. À tout de suite.